Bonjour à vous Emmanuel et bonjour à tous. La révolution a-t-elle vraiment eu lieu en mai 68? Politiquement, difficile à dire. Philosophiquement, peut-être, dans la mesure où ce qu'il s'est passé, l'événement 68, a ouvert des possibles jusque-là inespérés et inexplorés. Alors comment la philosophie a-t-elle hérité de mai 68? Laissons la parole au journaliste d'Interactualité qui, le 3 mai 1968, au journal de 13h, tente désespérément de joindre son correspondant Yves Mourouzi qui se trouve à Nanterre, une Nanterre injoignable.
Yves Mourouzi? Pas de liaison pour le moment avec Nanterre. Yves Mourouzi, vous êtes en ligne? Nanterre?
Vietnam, journal du comité Vietnam national.
Ici, on pense.
Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture.
Tuer les bureaucrates. Assez d'actes, des mots.
Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréaliste.
Les structures ne descendent pas dans la rue.
Demandez le courrier du Vietnam, journal des combattants vietnamiens.
Quand le dernier des sociologues aura été étranglé avec les tripes du dernier bureaucrate, aurons-nous encore des problèmes? J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi. Je n'ai rien à dire.
Contre la violence contre-révolutionnaire de l'État des patrons, flics et CRS.
Rien.
Bonjour Patrice Maniglier.
Bonjour Adèle Van Raat.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Nanterre, donc je suis ravie de voir que la liaison a été établie à nouveau.
Après 50 ans, la liaison est rétablie.
C'est ça, et même vous êtes en studio, donc vous n'êtes même pas correspondant. Et vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Mai 68 en théorie et en pratique » qu'on pourra lire en décembre prochain dans la revue La Part de l'œil, mais dont vous allez déjà nous faire part aujourd'hui, puisque vous êtes là pour parler de ce sujet. Nous avons entendu la lecture de certains slogans qu'on pouvait lire sur les murs de mai 68, lus par le comédien Noah Morgenstern, mixés avec l'ambiance de l'époque, comme si ces slogans avaient une valeur littéraire, voire même conceptuelle, qu'on sous-estime complètement quand on lit des slogans. On se dit c'est juste des graffitis. Or non, peut-être que la pensée s'exprime aussi dans ces slogans, non?
Oui, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut les appeler des slogans, c'est des écritures murales, c'est des énoncés. Des slogans, c'est des choses qui sont censées être répétées par une foule. Et ce qui est caractéristique des écritures murales, c'est que chacun s'y engage de manière très singulière pour une parole anonyme, en fait. C'est ça qui est très caractéristique quand vous voyez les écritures murales et qui fait aussi leur poésie, dont d'ailleurs je dois dire que mai 68 est le premier événement social d'importance qui donne lieu à autant d'écriture murale. De nos jours, on en voit beaucoup, on a l'habitude. Évidemment, il y a des graffitis qui remontent à Pompéi. Mais en fait, c'est en 68 que ça devient véritablement un mode d'expression, parce que d'abord, il y a des raisons techniques, il y a la bombe, etc. Mais aussi parce que ça colle à cette ambiance où le singulier et le collectif se fusionnent, en quelque sorte, d'une manière indiscernable. Et qui, moi, en tant que vieux professeur de philosophie mandarinale, ça me rappelle un petit peu la critique du jugement de Kant, la critique du jugement de goût. Parce qu'en fait, Kant dit exactement ça à propos du goût. Il dit avoir du goût, c'est s'engager en première personne sur l'universel, sans pouvoir certifier ou garantir que ce qu'on demande à tout le monde de penser, c'est-à-dire que ceci est beau, que cela est en fait a de la valeur, est vérifiable. Mais on le dit pour tout le monde, mais on le dit en première personne. Et les écritures murales ont quelque chose de ce type-là. Celui qui a bien vu ça, c'est Maurice Blanchot, le penseur, écrivain, qui était connu pour son extrême retrait, son extrême solitude, très peu de photos, etc., et son austérité presque d'écriture, mais qui a été un personnage extrêmement engagé en mai 68 dans le comité d'action écrivain-étudiant, et qui a théorisé cette forme de ce qu'il appelait le communisme de l'écriture. Donc une parole anonyme, mais anonyme ne veut pas dire justement, contrairement au slogan, collective. C'est pas la foule qui. C'est toujours très singulier. D'où aussi l'espièglerie de ces écritures murales.
Maurice Blanchot écrit ceci, il dit « Le livre n'a pas disparu, il y aura encore des livres, et ce qui est pire, de beaux livres. Mais l'écriture murale, ce mode qui n'est ni d'inscription, ni d'élocution, les tracts distribués hâtivement dans la rue qui sont la manifestation de la hâte de la rue, les affiches qui n'ont pas besoin d'être lues mais qui sont là comme défi à toute loi, les mots de désordre, les paroles hors discours qui scandent les pas, les cris politiques et des bulletins par dizaines comme ce bulletin, tout cela qui dérange, appelle, menace et finalement questionne sans attendre de réponse, sans se reposer dans une certitude, jamais nous ne l'enfermerons dans un livre qui même ouvert tend à la clôture, forme raffinée de la répression. »
Oui, donc la dimension fragmentaire de l'énoncé écriture murale lui permet justement de rejoindre un discours commun qui est de tout le monde et de chacun. Donc on peut parfois reconnaître qui a écrit, enfin on peut sentir quand même que celui qui a cité Héraclite, probablement on voit un petit peu d'où il vient. Bon. Mais en même temps, c'est pas complètement identifié. Et donc effectivement, il y a cette idée selon laquelle c'est un discours ouvert, c'est un murmure permanent. Bon, ça rejoint des préoccupations philosophiques de l'époque, et plus profondément, ça rejoint une interrogation qui, je crois, est toujours la nôtre, hein, de savoir si on peut pas changer le rapport entre la pensée ou la théorie et la vie, tout simplement, avoir un rapport, en un sens, moins autoritaire, non seulement au sens où la théorie cesserait de faire la leçon à la vie, hein, et serait capable, en quelque sorte, de l'épouser d'une autre manière, mais aussi moins autoritaire par rapport à elle-même. Et c'est ce que dit le texte de Blanchot, oui. C'est-à-dire que le livre contraint la pensée. Donc il l'oblige à se fermer dans une signification. Alors que l'énoncé fragmentaire, il laisse libre la possibilité de se raccorder à d'autres fragments et donc de produire d'autres effets de sens.
Et en même temps, beaucoup de ces slogans ont une forme impérative, voire autoritaire. Jouissez sans entrave, sortez. Enfin voilà, il y a beaucoup un appel à l'action qui est comme un appel à presque un rappel à une certaine, on pourrait dire un appel à l'ordre.
Oui,
une sommation dans ces slogans.
Oui, il y a aussi beaucoup d'humour. Oui. Par exemple,
je n'ai rien à dire.
Je n'ai rien à dire. Dans contestation, il y a con. Il y a beaucoup d'énoncés comme ça. L'impératif, en l'occurrence, à mon avis, est un impératif dérisoire. Par exemple, ayez des idées. On voit bien que c'est pas un ordre. Ayez des idées. C'est plutôt comme une manière de mimer. Un acte d'injonction politique. C'est pas du tout la même chose que tout le pouvoir aux soviets. Là, c'est un mot d'ordre. Tandis que ayez des idées, c'est pas un mot d'ordre.
Et vous dites que ces slogans sont le reflet d'un certain état de la philosophie au même moment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, à l'époque, il y a ces réflexions sur la question du sens, précisément, et autour de ce qu'on a appelé le structuralisme, notamment, tout un ensemble de réflexion qui, en gros, consiste à dire que nous vivons dans des univers de signes et que, contrairement à ce que l'on aurait tendance probablement à croire, au fond, c'est pas parce qu'on a des choses à dire qu'il y a des signes qu'on utilise, mais c'est parce que, justement, on est sensible à l'existence de ces êtres bizarres que sont les signes qu'on finit par produire des effets de sens et que le sens est un petit peu second. Et qu'il y a même dans la nature du signe, en fait, quelque chose qui ne va pas vers l'accomplissement d'une signification fermée, comme si on savait ce que l'on voulait dire. Il y a quelque chose qui, justement, s'ouvre à une dérive, alors que certains, comme Derrida, appelleront l'écriture. Barthes reprendra beaucoup le terme. Mais c'est déjà présent, en fait, chez les structuralistes comme Foucault. Et donc, il y a cette idée que les signes ont une sorte de capacité différentielle, de différer d'eux-mêmes, donc d'ouvrir dans leur existence une trace de quelque chose d'autre qui permet des bifurcations inattendues. Voilà. Mais on trouve ça chez Beckett aussi, hein, d'une certaine manière, cette critique de l'injonction du sens, d'avoir quelque chose à dire.
Donc voilà, le sens, l'intention ne précède pas forcément le signe. C'est parfois voilà. C'est la présence des signes qui elles-mêmes émettent un sens, comme les slogans, ça que vous voulez dire, c'est qu'en fait on peut investir voilà.
Exactement.
Cette écriture murale d'un autre sens.
Il y a une résistance du signe sur son sens, qui fait que le signe peut en fait s'investir ailleurs, qui n'est pas un surplus de sens comme la philosophie l'a souvent cru, c'est-à-dire que on veut tellement dire de choses qu'on les mots qu'on utilise sont pauvres hein, pour dire tout ce qu'on a à dire. Ça c'est un petit peu disons la vision d'une philosophie un peu expressionniste quoi que l'existentialisme a souvent. Ouais. Et donc du coup le langage est un peu mort. Bon, là c'est pas ça, c'est au contraire, c'est par la nature même du langage précisément, le sens est toujours plus faible que le signe. Les signes sont toujours plus riches. Et donc je pense qu'il y a dans ces énoncés, en tout cas c'est l'interprétation qu'en fait Blanchot, elle me paraît assez juste, quelque chose comme ça, comme une revendication d'un excès, du dire sur le dit. C'est plus important le dire que ce qu'on a dit.
Ça veut dire que le geste même compte plus que les conséquences de ce geste.
Absolument.
Et ça, on peut l'appliquer à mai 68.
Alors, on peut dire d'une chose de mai 68, c'est que, disons, si on le mesure à ses conséquences, eh bien, c'est un événement quasiment dérisoire. Bon, on a affaire à quelque chose qui est peut-être le seul exemple d'une grève générale, qui était quand même le grand mythe, le rêve de toutes les traditions révolutionnaires sur deux siècles. Et soudain, ça arrive. On n'a jamais vu ça dans aucun pays industrialisé, en réalité. On dit souvent que c'est la plus grande grève de l'histoire de France. Non, c'est la plus grande grève de toute l'histoire des pays industrialisés. Il n'y a pas eu de grève plus importante que celle-ci. Bon, cette grève a abouti à des augmentations de salaire de 6%, et une meilleure représentation syndicale. Bon. En fait, pas grand-chose. Je me rappelle d'un dessin de Volinsky qui listait toutes les avancées de mai 68 et qui disait, bon, bah, s'il a fallu 10 millions de grévistes pour ça, combien il faudra pour arriver à 8% d'augmentation de salaire. Bon. Donc, il y a quand même quelque chose d'inconséquent dans mai 68. Il y a une inconséquence, au sens où il n'y a pas les conséquences qu'on aurait été en droit d'attendre. Mais il y a aussi une caractéristique interne du mouvement qui est la revendication de cette inconséquence. Par exemple, le mouvement du 22 mars de Cohn-Bendit était très clair sur ce point-là. Pas de programme. On a entendu Lordon en 68, pas Nuit debout, dire « nous ne revendiquons rien ».
Frédéric Lordon, oui,
Frédéric
c'est ça.
Frédéric Lordon, voilà, dire à la place de la République « nous ne revendiquons rien ». Bon, c'est une phrase de 68. « Nous ne revendiquons rien ». On occupe, on ne revendique pas. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on valorise le processus sur la finalité. Donc, on rompt avec une certaine vision de l'histoire qui était plutôt héritée du marxisme et de Hegel, à savoir qu'en fait, l'action présente est un moyen, une ruse pour que l'histoire accomplisse un état à venir qui est en quelque sorte inscrite dans les logiques mêmes du temps. Ici, il y a au contraire l'idée selon laquelle l'événement révolutionnaire brise le cours de l'histoire, brise sa continuité et ouvre à quelque chose de radicalement indéterminé.
C'est le sens même du mot événement. Le philosophe qui dit ce que vous venez de dire, Patrice Maniglier, en ces termes, c'est Gilles Deleuze qui dit que mai 68 est plus un devenir révolutionnaire qu'un avenir de révolution. Écoutez-le.
68, c'est l'intrusion du devenir. On a voulu y voir parfois le règne de l'imaginaire. C'est absolument pas imaginaire. C'est une bouffée de réel à l'état pur. C'est le réel. C'est tout d'un coup le réel qui arrive. Alors les gens, ils comprennent pas, ils reconnaissent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens réels, enfin. Les gens dans leur réalité, ça a été prodigieux. Et qu'est-ce que c'était les gens dans leur réalité? Eh bien, c'est le devenir. Que les historiens n'aient pas bien compris, c'est forcé, parce que moi je crois tellement à la différence entre l'histoire et le devenir. C'était un devenir révolutionnaire, sans avenir de révolution.
Le devenir révolutionnaire, c'est sur France Culture cette semaine de 10h à 11h, les chemins de la philosophie. Un devenir révolutionnaire sans avenir de révolution, c'est Gilles Deleuze qui le dit dans l'extrait que nous venons d'entendre. Alors Patrice Maniglier, si je vous comprends bien et si je comprends Deleuze, en mai 68, la révolution n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave, voire même c'est presque tant mieux, car on a pu saisir ainsi l'essence même de ce qui se passait.
Oui. Alors, je pense que ici, Gilles Deleuze fait allusion quand il dit, en fait, on a dit que c'était imaginaire. Il fait allusion à des textes, notamment de Raymond Aron, qui justement disait, mais qui correspondent à un sentiment de beaucoup de gens, en fait.
Raymond Aron qui a écrit La Révolution Introuvable.
Raymond Aron a écrit ce livre qui s'appelle La Révolution Introuvable en directement en juin 68, quasiment après, enfin pendant les événements finalement, et qui disait, en fait, bon, en fait, on a affaire à un psychodrame, à un carnaval, à une mascarade, à un simulacre. Donc toutes ces choses, en fait, qui désignent donc l'artifice ou l'irréalité, précisément. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on pourrait imaginer comme une sorte de parenthèse cathartique dans ces quelques semaines, comme il y en a peut-être dans tous les mouvements sociaux. Et nous sommes au cœur en ce moment d'un mouvement social. Et la question qui est importante est de savoir comment ces moments de suspension du temps que sont les mouvements sociaux, et surtout quand ils prennent des dimensions insurrectionnelles, ce qui était le cas de mai 68, voire révolutionnaires dans leur apparence, dans quelle mesure cette suspension du temps fabrique en même temps une autre temporalité cumulative, construit précisément un avenir ou pas. Alors, la première chose que dit Deleuze et qui me paraît effectivement importante, c'est de dire il ne faut pas tout le temps mesurer le devenir à l'avenir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe ici et maintenant, et si vous ratez ce point de départ, ben vous n'avez rien. Vous n'avez même pas d'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce devenir? Ben, c'est simplement, je dirais, le frisson de l'aile de la possibilité, pour employer une phrase de Baudelaire. C'est l'aile du possible, comme ça, qui vient nous toucher. C'est-à-dire, effectivement, quelque chose d'autre est possible, mais pas n'importe quoi. C'est une possibilité qui est liée à une situation présente dont on voit soudain les caractères insupportables. Dans l'émission de l'autre jour, Leslie Kaplan faisait cette...
Mardi dernier, oui.
Oui, elle faisait elle parlait du caractère intolérable de l'expérience de l'usine. Bon. Et elle disait en même temps, il faut s'y habituer quand on pense qu'on va y vivre. Bon. Et soudain, cet intolérable-là peut être présenté, discuté, objectivé, etc. Bon, ben, c'est ça un devenir. C'est pas forcément qu'on va construire un avenir, mais ça veut dire qu'il y a au moins un déplacement sur place par rapport à notre expérience immédiate. Et je dirais presque une relativisation de ce qu'on a vécu dans ce qu'on pourrait vivre, dans ce qu'on pourrait faire. Donc, il y a une réalité au possible. Et ça, c'est un problème proprement philosophique que Deleuze a beaucoup pris en charge. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'on est confronté à la question de la possibilité, on pense que c'est juste des représentations qu'on a dans la tête, en fait, on a plein de problèmes philosophiques. C'est une vraie impasse de ne pas attribuer au possible du tout de réalité. C'est une véritable impasse métaphysique. On se retrouve avec plein de difficultés. Et donc, je pense qu'il a raison, Deleuze. Il faut penser que le possible est réel.
Il est héritier de Bergson, en ce sens.
Il est absolument héritier de Bergson, en ce sens. Et de bien d'autres, d'ailleurs. Et donc, il faut, pour tenir que le possible est réel, pouvoir aussi dire quelles sont les expériences dans lesquelles le possible se donne. Et bien, justement, ce possible se donne dans des expériences qui ont un caractère de révolution, puisque soudain, on a l'impression que ce qu'on pensait même pas être possible l'est peut-être. Donc, c'est l'impensable devient en quelque sorte sensible. C'est une redistribution de l'expérience. Donc c'est ça le devenir. Et si on ne part pas de ces expériences de déplacement soudain, où en effet, on ne peut pas attester que le possible est réalisable, on peut dire en revanche qu'il est réel, c'est pas pareil, mais qu'il est réalisable dans un état futur, ça on n'en sait rien. Mais si on ne part pas de ça, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir en réalité? Pas grand-chose. Et en même temps, moi j'ajouterais que si on en reste à ça, parce que maintenant on est quand même 50 ans après mai 68, je dirais mai 68 a été le modèle de ces événements purs qui ne font pas histoire. Et il a inspiré finalement, enfin pas inspiré, mais on vit depuis 50 ans dans ce type d'événement. Il a peut-être été le premier, on a cru que c'était une révolution, puis non, c'était autre chose. Et depuis, on a un petit peu que des trucs comme ça. À la limite, les révolutions arabes ont donné lieu à quelque chose comme ça. En tout cas, Occupy Wall Street.
Avec des conséquences quand même un peu plus
réelles
pour le coup.
Avec des conséquences beaucoup plus tragiques. Mais je veux dire, dans la dynamique, disons, du mouvement des places, il y avait une dynamique qui n'était pas forcément une dynamique de programmation, de prise de pouvoir, etc., qui n'est pas la dynamique, si vous voulez, bolchevique, léniniste ou marxiste, etc., qui est quelque chose plutôt comme une généralisation de l'insurrection ou une généralisation de l'insoumission. Bon.
Mais si on vous suit, quelle est finalement l'importance même de ce possible qui montre qu'il pourrait advenir? Si vous dites quand même, ça n'a pas fait histoire, la révolution n'a pas vraiment eu lieu, mais on a pu sentir que le possible était réel. C'est une bien maigre consolation. Quelle est la teneur en réel du possible, dès lors que ce possible, en fait, n'advient jamais?
Alors d'abord, il change notre rapport à l'ordre des choses. C'est-à-dire que soudain, l'ordre des choses, on ne l'a peut-être pas transformé, mais il est privé de sa légitimité. Il devient contingent. On sent qu'il il devrait même être autre. Il pourrait être autre. Donc on ne va pas vivre dans ce monde après comme avant. Et donc les capacités de révolte, les disponibilités à la révolte vont être plus grandes. Ça s'est avéré dans les années 70. Ensuite, il y a des voies que peut-être Deleuze dirait moléculaires de l'événement, notamment à travers des petites révolutions personnelles dans la vie. Et ça, il y a un beau livre de Julie Pagis, notamment, sur justement Ils sont ensuite un pavé dans leur histoire. Donc des gens qui ont changé leur vie dans le rapport au choc qu'a été l'événement. Pas simplement sous l'effet de transformations culturelles un peu générales qui sont arrivées dans plein de pays et dans plein de milieux, mais parce qu'ils ont été saisis, transis par l'intensité de l'événement. Et ça a effectivement changé leur vie. Sauf que ça ne se voit pas apparaître au niveau des institutions, mais plutôt au niveau des comportements, des sensibilités, etc. Et on a dit, je pense que c'est pas faux, que mai 68 a été d'une certaine manière une grande révolution au niveau des sensibilités, et pas uniquement au niveau sexuel, etc., mais aussi au niveau des rapports de travail. Voilà.
Ça a vraiment changé quelque chose.
Je pense que ça a changé quelque chose dans l'ambiance. Un certain nombre de choses ne pouvaient plus se faire.
De manière durable.
De manière durable, oui. Sauf que les structures à la fois de domination, disons, et d'exploitation économique et politique, ne changeant pas du tout. Je pense que là, on vit, c'est ce que dit Deleuze d'ailleurs dans un texte avec Guattari qui s'appelle « Mai 68 n'a pas eu lieu », on vit dans un état un peu de schiz depuis 50 ans, c'est-à-dire on est là en train de... on n'a pas su construire la subjectivité qui était liée à l'événement. Et ce qui est très drôle, c'est que Deleuze, il dit... Contrairement, il prend deux exemples qui ne sont pas des exemples que les traditions révolutionnaires ont retenus, qui sont le New Deal de Roosevelt et le Japon d'après-guerre, dans lequel il dit là, on a construit de nouvelles subjectivités pour être à la hauteur de l'événement, la crise dans un cas, la défaite dans l'autre. Et, pense-t-il, c'est ce qu'on aurait dû faire en 68. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire, il dit la crise, soi-disant, dans laquelle on vit, vient du fait qu'on n'a pas été à la hauteur de 68 et qu'on a voulu écraser, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas créer les subjectivités et les institutions qui permettraient, quoi notamment ? En fait, qui permettraient surtout une profonde renouvellement de la notion d'autorité. C'est surtout ça, en fait, la question. Et aussi, une deuxième chose essentielle, le lien entre travail manuel, travail intellectuel, entre étudiants et ouvriers, qui était aussi le grand axe 68. Et on n'en est jamais aussi loin qu'aujourd'hui, où on a des pauvres ouvriers chinois surexploités d'un côté, des étudiants et des professeurs de philosophie comme moi, qui éventuellement achètent leurs vêtements produits par ces étudiants. Et ils ne peuvent absolument pas communiquer avec eux, dans quelle langue, dans quelle... Voilà, donc l'éloignement entre le monde ouvrier et le monde intellectuel, je pense, est beaucoup plus grand encore aujourd'hui qu'il l'était en 1968. Donc là, il y a eu vraiment des échecs très, 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 très lourds qui expliquent quand même, je crois, effectivement, que notre monde va pas bien et qu'il n'ira pas bien tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec ce qu'il a rencontré en mai 68.
Votre lapsus vous a trahi, Patrice Maniglier. Le texte de Gilles Deleuze et Félix Guattari s'appelle pas « Mai 68 n'a pas eu lieu », mais « Mai 68 a-t-il eu lieu ?»
Ah bon, d'accord.
Le voici.
Dans des phénomènes historiques, comme la révolution de 1789, la commune, la révolution de 1917, il y a toujours une part d'événements irréductibles aux déterminismes sociaux, aux séries causales. Les historiens n'aiment pas bien cet aspect. Il restaure des causalités par après. Mais l'événement lui-même est en décrochage ou en rupture avec les causalités. C'est une bifurcation, une déviation par rapport aux lois, un état instable qui ouvre un nouveau champ de possibles. En ce sens, un événement peut être contrarié, réprimé, récupéré, trahi. Il n'en comporte pas moins quelque chose d'indépassable. Mai 68 est plutôt de l'ordre d'un événement pur. Il y a eu beaucoup d'agitation, de gesticulation, de paroles, de bêtises, d'illusions en 68. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que ce fut un phénomène de voyance. Comme si une société voyait tout d'un coup ce qu'elle contenait d'intolérable et voyait aussi la possibilité d'autre chose. C'est un phénomène collectif sous la forme « du possible, sinon j'étouffe ». Thank you.
Gilles Deleuze et Herbie Hancock sont sur France Culture, les chemins de la philosophie, en votre compagnie, Patrice Malignier, qui est avec nous jusqu'à 10h50 aujourd'hui pour nous parler de mai 68 et de savoir si cette révolution a vraiment eu lieu ou pas. Le texte de Deleuze et Guattari le pose en des termes très clairs autour de cette notion d'événement. Et ils disent mai 68, finalement, c'est l'événement pur. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, justement, que c'est un événement qui n'a pas... qui n'est pas mesurable à ses conséquences historiques postérieures. Hein, parce qu'encore une fois, comme je disais d'ailleurs, si on regarde ses conséquences historiques, elles sont dérisoires par rapport à l'ampleur de l'événement. Et donc, on est confronté à cette question de savoir si quelque chose a eu lieu ou pas. Et donc, qui dit un événement pur, oui, ça veut dire justement que...
Sans conséquences.
Oui, sans conséquences. C'est-à-dire qu'on est obligé, si vous voulez, de repenser ce que veut dire événement pour comprendre en quel sens mai 68 est un événement. Moi, je pense qu'il y a une histoire de l'événement même. C'est-à-dire que la forme même de l'événementialité change dans le temps et dans la géographie, d'ailleurs. Et qu'on a tort de croire qu'on sait ce que c'est qu'arriver. Je pense qu'arriver, ça varie.
Au sens où quelque chose arrive, c'est ça ?
Oui,
ça arrive.
Au sens où quelque chose arrive. Arriver n'a pas le même sens pour tous les événements. Et avec 68, on est effectivement entré dans un âge, on pourrait dire peut-être post-historique, dans lequel arriver ne veut plus dire passer d'un état historique collectif antérieur à un état historique collectif postérieur différent du premier. Arriver veut dire effectivement faire cette expérience que Deleuze qualifie de voyance. Alors c'est très beau ce mot voyance, parce que ce qu'il veut dire, et qu'on retrouve dans pas mal de spéculations de la philosophie française d'ailleurs, d'après 68, comme chez Alain Badiou, chez Jacques Rancière, chez un certain nombre de Nancy, enfin un certain nombre de philosophes, s'interrogent sur le problème de l'indécidabilité de l'événement. Le propre, Derrida lui-même d'ailleurs aussi, le propre d'un événement, c'est que vous pouvez pas être sûr qu'il est arrivé, si c'est un vrai événement. Pourquoi ? Parce que si un événement, c'est quelque chose... par principe d'imprévisible, en tout cas si on le donne un sens fort. S'il est imprévisible, ça veut dire justement qu'il va déjouer en quelque sorte les cadres de réception habituels qu'on a des événements, c'est-à-dire de perception, de conceptualisation, de reconnaissance. C'est presque comme le Messie dans les évangiles, dont on n'est pas sûr de savoir s'il est dans le vent ou s'il est arrivé comme un voleur. Enfin, il y a toute cette tradition messianique derrière. Donc l'événement, c'est quelque chose dans son sens le plus fort qui brise les cadres de l'événementialité même. Donc, forcément, quand ça arrive, c'est incroyable. On n'y croit pas. Et on n'a même pas les moyens de s'en assurer collectivement. Donc, il faut parier sur les événements, ou il faut s'impliquer dans les événements. Mais de l'extérieur, on ne peut pas savoir si c'est arrivé ou pas. Donc, voyance, ça veut déjà dire ça. Parce que ça veut dire, en fait, qu'on a senti, comme il dit, que quelque chose auquel on était habitué était en fait intolérable. Mais ça, ça n'est possible que parce que, en quelque sorte, la limite extérieure d'une situation vient soudain traverser l'intérieur de cette situation. Ce truc qui fait que, au-delà, vous n'y pensez pas, cette limite, cette frontière de pensable, bah, soudain, elle rentre dans votre expérience. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose... Vous voyez, c'est le bord de votre expérience qui rentre dans l'expérience. C'est comme chez Kant, quand Kant dit qu'il y a des structures qui conditionnent la possibilité d'une expérience, bah là, on passerait dans un autre régime d'expérience, soudain. Et donc forcément, c'est une expérience qui n'est pas garantie, qui n'a pas des coordonnées normales. Donc c'est ça un événement pur. C'est quelque chose, effectivement, qui remet radicalement en cause les coordonnées spatio-temporelles, sociales, qui font que des choses arrivent, quoi.
Mais si c'est le cas, si c'est un événement pur et c'est un événement qui non seulement est imprévisible et qui n'a pas forcément des conséquences... aussi importante que celle qu'on pouvait espérer, pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui de mai 68 ? Pourquoi est-ce que 50 ans après, pourquoi est-ce que cet événement, justement, est si présent ? S'il était pur au sens où l'entend Deleuze, il serait advenu et on parlerait uniquement aujourd'hui de sa pureté. Or, c'est vraiment de mai 68 dont on parle, de ce qui s'est passé.
Oui, mais on en parle précisément parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la...
Il s'inscrit dans une histoire, c'est ça que je veux dire. Vous dites, mais il n'y a pas d'histoire.
D'abord, dire qu'il est imprévisible ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens d'essayer de l'expliquer a posteriori et de trouver des... Ce serait bien dommage, d'ailleurs, de renoncer à ça. Bon, je pense que... Et d'ailleurs, même Deleuze ne le souhaite pas. C'est-à-dire, on peut, au contraire, un événement, par la manière dont il déborde les cadres de ce qu'on croyait pensable, nous informe sur quelque chose qui était là, et qu'on n'avait pas, auquel on n'avait pas fait attention. Donc déjà, bon, c'est une chose. Ensuite, il s'inscrit dans l'histoire, mais moi je pense que mai 68, c'est un peu l'ambiguïté des commémorations actuelles, n'a de sens que parce que il critique le présent. Il y a le passé critique le présent. Au lieu de vouloir regarder le passé comme quelque chose qui rentre comme un élément d'explication dans l'état du présent d'aujourd'hui, on peut regarder le passé comme, au contraire, en quelque sorte, ces chemins oubliés, ces passages négligés, cet œil qui vous regarde du fond du passé qui vous dit « Mais qu'as-tu fait de cette proposition ?» Et je crois qu'aujourd'hui, le présent doit avoir un peu honte en se tournant vers 1968 et il doit entendre ce cri « Mais qu'as-tu fait ?» de ma bêtise même. Mais qu'as-tu fait de ma joie? Mais qu'as-tu fait de mon cri? Qu'as-tu fait de ma colère? Bon, et ça, c'est pas tout à fait le même rapport à l'histoire que, si vous voulez, essayer d'expliquer le présent par le passé.
Mais ça marcherait pour les personnes qui ont vécu mai 68 et qui aujourd'hui se diraient ça, mais les personnes de la plus jeune génération, parce que je parlais des événements dans les universités notamment, n'ont pas vécu mai 68.
Oui, moi non plus.
Ils peuvent pas se sentir jugés par quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Ou alors il y aurait une espèce de surmoi national.
Est-ce que tu
national...
es à la hauteur de... C'est-à-dire, je parle du monde. Eux, ils peuvent avoir le sentiment, en revanche, que vient de mai 68 une interpellation sur le présent, dont ils peuvent se sentir les destinataires. Ce qui est le cas. C'est la raison pour laquelle il y a ce slogan, cette écriture murale qui circule, qui est « Fuck mai 68, fight now »,« Nique mai 68, bats-toi tout de suite ». Et en fait, c'est intéressant ce slogan parce que on voit bien qu'il est en même temps un geste de fidélité à mai 68. Et c'est en fait peut-être la seule manière de se tenir un peu en fidélité avec mai 68 que d'être dans cette relation d'ambivalence, parce que mai 68 habite le présent d'une manière très étrange. Que Emmanuel Macron ait envisagé de commémorer mai 68 est très étrange, puisque mai 68, il faut le rappeler, c'est quand même un mouvement d'illégalisme de masse. C'est des séquestrations de patrons, c'est des occupations d'usines en très grand nombre, c'est des émeutes avec des policiers écrasés par des camions, dont un mort, un commissaire de police. Donc c'est quand même un niveau d'illégalisme qui n'a même rien à voir avec la ZAD. Donc c'est très curieux quand même que le pouvoir actuel puisse imaginer commémorer cet événement qui est tellement contraire à ce qu'il représente.
C'était plus violent. Vous pensez que mai 68 était plus violent que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dont on parle? Parce qu'il y a eu un mort aussi, Rémi Fraisse.
Alors, c'est pas la Notre-Dame-des-Landes, Rémi Fraisse. C'était à Sivens. Et c'est un mort, oui, bien sûr. Mais la violence, si vous voulez, des militants était beaucoup plus grande. Mais
c'est intéressant parce que
la loi de Vaquet, d'ailleurs,
que je recevais hier et d'autres témoins, insistent beaucoup sur la joie, le caractère festif de mai 68, qu'il y avait quelque chose un peu bon enfant.
Il y a quelque chose de festif aussi dans l'émeute.
Qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui, qu'aujourd'hui serait beaucoup plus violent qu'il y a 50 ans. Donc vous ne partagez pas ce constat?
Non, c'est-à-dire, je pense qu'au niveau il y a de la fête dans l'émeute en général, ça c'est toujours vrai. Et en revanche, je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de légèreté, de dérision par rapport au contenu politique. Il y a peut-être plus d'angoisse, il y a peut-être plus un sentiment d'apocalypse qui n'était pas tellement présent, j'ai l'impression, en mai 68. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inquiétude. Bon, enfin, mais c'est ça, ça me paraît assez relatif, parce qu'en même temps, bon, les mouvements militants d'aujourd'hui sont de nouveau assez drôles quand même. Il y a quand même pas mal d'espièglerie, d'insolence... qui était un trait de mai 68 très caractéristique, qu'on retrouve un petit peu, par exemple, autour du comité invisible, dans cette littérature-là, dans le procès qui a été fait récemment à Julien Cupa et à Mathieu Burnel. On voyait cette insolence nouvelle qui, moi, me semble effectivement en lien avec cette histoire, qui est importante parce que c'est aussi une manière de saper l'autorité. Rire, c'est quand même une manière extraordinairement forte de saper l'autorité, parce qu'on propose rien non plus. C'est pas forcément une manière c'est une manière d'exposer la contingence d'une situation qui est vraie, c'est-à-dire que cette situation n'est pas fondée à être ce qu'elle est, et en même temps, cette vérité, on vous la livre. Débrouillez-vous avec. Donc la rire a une cette puissance.
Alors on va rire avec Raymond Aron ensemble, Patrice Maniglier, vous voyez, ça a réussi. Vous avez parlé de la honte du présent, la honte du regard qu'on pouvait jeter sur le présent À la lumière du passé de mai 68, eh bien, le terme de honte revient dans la bouche de Raymond Aron en 69, mais pour parler cette fois-ci bien de 68. Écoutez.
Ce que je n'ai pas aimé, c'est l'attitude des adultes. Je n'ai pas aimé l'admiration qu'un grand nombre d'adultes ont manifestée pour les exploits de la jeunesse. Je trouvais parfaitement légitime que ces jeunes aient le sentiment de transformer le monde alors qu'ils se bornaient à une espèce d'immense fête de fraternité lyrique, telle qu'on en a connue en 1848 et en d'autres circonstances. Mais bien évidemment, il fallait ensuite rentrer dans la réalité. Et quand on est rentré dans la réalité, on a constaté que le coût pour la nation française, finalement probablement pour les travailleurs, pour la monnaie, pour le prestige de la France dans le monde, tout cela, le coût était considérable. Et je dirais que, dans une large mesure, ma réaction aux événements du mois de mai-juin a été partiellement une réaction de patriote français. Je trouvais que c'était un peu humiliant pour la France de voir la société se décomposer comme elle s'est décomposée au mois de mai.
Les Français, depuis 1789, magnifient toujours rétrospectivement leur révolution. Immense fête durant lesquelles ils vivent tout ce dont ils sont privés dans les périodes normalement et ont le sentiment d'accomplir leurs aspirations, fût-ce dans un rêve éveillé. La communauté estudiantine, le grand refoulement, ces palabres indéfinis sont typiques de la société française. Satisfaction provisoire, évanescente de ce que la société vécue refuse aux Français. Bien entendu, si un phénomène de cet ordre a pu se produire, il a nécessairement des causes profondes. Mais ces causes profondes appartiennent à l'ordre affectif, à l'ordre émotionnel. Au lieu de prendre au sérieux ce que les acteurs disent, il faut comprendre ce qu'ils ressentent. Nul ne peut comprendre ce qu'ont écrit en mai-juin beaucoup d'écrivains dont je respecte l'intelligence, s'il oublie que les hommes de gauche, sevrés de leur utopie depuis le stalinisme, ont cru retrouver ce dont ils avaient toujours rêvé. Une révolution libertaire, une révolution qui ne serait pas tyrannie et bureaucratie. Ils ont revécu 1917 et la Commune, profondément blessés par mon scepticisme et mon cynisme. Il suffisait d'un discours pour faire tomber une fièvre que l'on appelait révolutionnaire, d'où l'impression ressentie que traduisait l'expression de « psychodrame ». Les Français s'étaient joués à eux-mêmes une sorte d'immense comédie. Dans un siècle où les révolutions du modèle de 1848 n'ont plus de sens, ils se sont donnés à eux-mêmes le spectacle d'une grande révolution. Un homme parle et la comédie est finie. La voix de Raymond Aron qu'on a entendue, c'était en 1969, au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie, et puis dont j'ai lu un texte, hein, La Révolution introuvable, qui a été écrit, vous l'avez rappelé, Patrice Manigli, en juin 68, donc vraiment de manière très contemporaine aux événements. À ceci d'intéressant qu'elle pointe un certain aspect de cet événement, pas considéré comme tel, parce que pour le coup, Raymond Aron l'inscrit vraiment dans des causes qui la précèdent, des causes émotionnelles, dit-il, mais des causes quand même. Donc il y aura un caractère prévisible à ce qui s'est passé. Mais il relie cet événement donc à une dimension beaucoup plus politique et révolutionnaire au sens fort du terme. Les choses ont échoué aussi, sans doute, parce que, hantés par l'idéal de la révolution précédente, 1789 ou 1848, eh bien, ce qui s'est passé était forcément voué à l'échec, car une telle révolution n'allait pas arriver à nouveau. Et là, on est dans une autre dimension qui est plus philosophique et plus esthétique, mais qui est vraiment, pour le coup, d'un point de vue politique, d'extrême gauche.
Oui, alors Raymond Aron est effectivement une figure assez intéressante. D'abord, ce qui est frappant en l'entendant se désigner comme patriote français,
humilié
par mai 68, c'est amusant, justement, 50 ans après, parce qu'au contraire, la France rayonne du fait de mai 68 dans le monde entier. Bon, moi, je vais partout dans le monde et une des choses que les gens savent partout dans le monde, c'est mai 68, hein, et ça les a inspirés en Inde, même au Japon, etc. Bon. Donc ça, c'est un point assez amusant. Mais ce qui est intéressant chez Raymond Aron, c'est qu'il a cette conviction tout à fait intéressante que les sociétés industrielles comme les nôtres, hein, en fait, ne peuvent pas être dirigé autrement que sur un mode bureaucratique ou technocratique, et qu'il y a deux voies, la voie libérale ou la voie socialiste pour le faire. Que la voie socialiste est à son efficacité propre, mais qu'elle sacrifie les libertés individuelles, et donc que seule la voie libérale, par le biais de la concurrence, etc., et de la grande entreprise, régulée par l'État, est bonne. Bon. Donc il a une analyse en termes vraiment, comme vous l'avez dit, socio-historique de l'impossibilité de ce type de d'autre chose. Donc c'est la raison pour laquelle il voit dans l'idée d'une forme de socialisme non bureaucratique qui était, parce que mai 68 est une revendication, comme d'ailleurs à Prague, d'une forme de socialisme anti-stalinien en réalité. C'est ce qu'on appelle les gauchistes. C'était que des gens anti-staliniens, donc et assez proches, notamment de groupes trotskistes comme Socialisme Barbarie, de Castoriadis, Le Fort, de toute cette gauche anti-totalitaire. Hein.
Vous avez raison de parler de Prague, parce qu'en 68, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a eu des événements.
Pas qu'à Paris. C'est ce que j'allais dire. C'est l'aspect aussi patriote français est amusant, parce que en fait, c'était dans le monde entier qu'il y a, enfin, et jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a quand même ces retours de ce type d'expérience. Donc j'ai parlé d'Occupy Wall Street, qui était quand même un mouvement assez large. J'ai parlé du mouvement des places. Alors c'est vrai que là, il y avait des perspectives de renversement de régime, qu'il n'y avait peut-être pas dans Occupy Wall Street. Mais il y a plein de mouvements qui ont un petit peu cette forme qu'avait mai 68, c'est-à-dire une forme, pour parler comme notre président de la République, bottom-up, et pas du tout une forme de qui cherche un coup d'État, en quelque sorte, comme le faisaient les révolutions du 19e siècle, y compris la révolution russe, de ce point de vue-là. Donc, mais surtout, le fond de l'affaire, c'est ce que pense Aron, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'économie moderne, complexe, avec les réseaux longs que ça implique, la très grande industrie, voilà, l'internationalisation, s'il n'y a pas, en fait, un contrôle bureaucratique des gens qui dirigent et des exécutants. Donc la critique dirigeant-exécutant, intellectuel, manuel, qui est au cœur de mai 68, est pour lui condamnée à l'échec. Et là, je pense que, bien sûr qu'il faut prendre en compte ce qu'il dit, c'est une contrainte énorme, mais je pense qu'il a tort, et que se résigner à ne pas dépasser cette opposition manuelle, intellectuelle, dirigeant, exécutant, etc., en fait, c'est renoncer au sens même de la vie, c'est le sens même de la vie collective. C'est vraiment accepter que on va destiner comme ça des parties de l'humanité. Et le faire, bah, ça aggrave en réalité les inégalités. Ça, c'est un autre point qui me frappe, c'est que quelle est l'importance de ces événements ? Bah, l'importance de ces événements, c'est aussi qu'ils ils construisent une culture de résistance. Ils ont construit, de fait, une culture de résistance. Et à partir du moment où ils ont été de plus en plus écrasés, où ils ont disparu, eh bien, il faut bien reconnaître que, disons, les puissances, les puissants, ont eu un peu la bride lâchée. Et ça, ça s'exprime dans des choses très simples, comme la répartition du capital et du travail qui s'est inversée entre les années 70 et aujourd'hui. Aujourd'hui, la part de la plus-value qui va vers le capital est bien supérieure à celle qui va vers le travail, alors que c'était l'inverse il y a 50 ans. Donc, il y a eu un changement de rapport de force. Et donc, je pense que mai 68 fait partie de cette période de l'histoire humaine, parce que c'était sur l'ensemble de la planète, où il y avait des mouvements organisés, des dominés, très puissants. Et Aron met le doigt sur le problème qui est que ces mouvements organisés très puissants, bah, en fait, d'une certaine manière, ils ont buté sur l'échec, sur les impasses propres et proprement politiques des révolutions socialistes, notamment, évidemment, en Union soviétique, mais aussi en Chine, mais aussi au Vietnam, à Cuba, etc. Et que donc, aujourd'hui, notre problème, en vérité, il est quand même celui-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rabat sur l'idée sur laquelle, bon, bah, en fait, il faut laisser ces mouvements insurrectionnels, un petit peu semi-spontanés, tenter leur chance et voir s'ils l'emportent, comme ça fut le cas dans certains pays arabes? Mais après, il n'y a pas de direction politique. Ou est-ce qu'il faut envisager, en fait, effectivement, de reprendre une conception de l'histoire plus classique
avec une révolution.
Où il y a des programmes, c'est-à-dire des buts historiques. Et ces deux hypothèses me semblent un petit peu insatisfaisantes.
Vous en avez une troisième ?
Pas encore, mais j'y réfléchis avec un certain nombre d'amis, de collègues, mais je pense et je vois que beaucoup de gens réfléchissent à ça, c'est-à-dire à essayer de reconstruire un peu un concept d'histoire et un concept d'action historique dans un contexte comme le nôtre qui n'y est pas favorable. Parce que d'un côté, on vous dit il n'y a pas d'alternative, les choses vont dans leur direction, tu ne pourras rien changer. Et d'un autre côté, en fait, dans les mouvements, en quelque sorte, de résistance, on a du mal à penser des projets historiques. Bon, moi, je suis absolument convaincu que la question du réchauffement climatique global est un point de départ suffisant pour au moins en penser refonder une perspective historique. Mais vous voyez, elle est bizarre, cette perspective historique, parce que c'est une perspective historique globale, c'est-à-dire qui envisage un temps à venir, mais qui envisage ce temps à venir comme l'évitement d'une catastrophe.
Et globale au sens où la prise en compte du problème écologique dépasse largement les problèmes politiques dont nous parlons jusqu'à présent, le milieu ouvrier, étudiant, là c'est l'humanité entière qui est concernée par le réchauffement.
Pas que l'humanité. Pas que 60% de la biodiversité mondiale a déjà disparu.
La planète elle-même.
Oui, voilà, donc les conditions mêmes de vie. Je pense que l'évolution des sociétés industrielles, l'évolution du capitalisme, par sa nature propre, sa dynamique, effectivement, de dépassement permanent de soi, nous a conduit à poser la question, effectivement, en ces termes globaux. Donc là, il faut reconstruire une notion de temporalité historique.
C'est ça, vous dites qu'il faut proposer un nouveau concept d'histoire. Vous avez dit tout à l'heure, les choses vont mal. Comment les faire changer? Retour à mai 68, ça ne portera pas forcément ses fruits. Une révolution au sens communiste du terme, vous êtes assez sceptique aussi. Donc finalement, c'est en proposant un nouveau concept d'histoire que nous pourrons vraiment faire changer les choses.
Repenser aussi le rapport entre l'action individuelle et l'action globale. Je crois par exemple le modèle de la ZAD qui était maltraité ces derniers temps, avait ça, et j'espère va pouvoir mettre en œuvre ces propositions, parce que c'est vraiment articuler l'action individuelle la plus immédiate, la plus quotidienne, y compris dans ses dimensions éthiques, plastiques, esthétiques, avec des considérations planétaires, en favorisant aussi des alliances avec des circuits qui sont des circuits choisis parfois très loin, avec des paysans guaranis au Brésil, etc. Et donc, il y a là un autre type de faire monde, une autre manière de faire monde, dans un rapport à la temporalité historique globale, qui me semble, peut-être en tout cas quelque chose à regarder de près. Et il y a d'autres expériences comme ça qui sont en train de se faire, je crois, et qui seraient inspiratrices, je pense, pour la philosophie.
Alors que fait-on de mai 68? Est-ce qu'on peut en hériter aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer à le célébrer en se demandant finalement quelle a été la valeur ajoutée? Est-ce que, comment vous positionnez par rapport à ça?
Moi j'organise à Beaubourg des ateliers de création théorique avec mon collègue de Paris 8, Laurent Jean-Pierre, dans le cadre de grands programmes de commémoration. Et ce qu'on veut faire justement, c'est se servir de mai 68 et des commémorations pour faire penser aujourd'hui et donc permettre aussi aux gens d'être actifs, non pas simplement d'être passifs face à des discours qui sont tenus sur mai 68, mais de prendre connaissance de documents, de textes, de propositions et de eux-mêmes d'écrire par exemple des slogans, d'écrire des textes, de faire des propositions théoriques, philosophiques, ou en sciences politiques, ou de sociologie sauvage ou savante, etc. Et donc ça, on fera ça à Beaubourg tous les jours, de 14h à 18h,
en mai.
27 avril au 20 mai, pendant 3 semaines, sauf les mardis où le centre est fermé. Il y aura ces ateliers de création théorique, donc ça c'est une manière de le faire. Et on ne peut pas, de toute manière, comme je l'ai dit, éviter que les commémorations de mai 68 soient ambivalentes. Donc fuck mai 68, c'est la tonalité dans laquelle on doit commémorer mai 68. Et on doit commémorer mai 68 en sachant que c'est absolument pas possible de le commémorer tranquillement.
Disons. Je rappelle que c'est un slogan que vous citez, hein, fuck
mai
68,
oui,
vous n'avez pas d'inventer cette formule.
Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sur les murs. Et donc voilà, on peut pas, il n'y a pas de commémoration tranquille. C'est pas comme la Constitution de 1958, mai 68.
Qu'on commémore moins d'ailleurs.
On va commémorer, mais c'est un trouble, mai 68. Et si on n'est pas capable de rester avec ce trouble, il vaut mieux pas commémorer. Donc à ce moment-là, il vaut mieux ne rien faire, je pense. Et je vois certaines commémorations qui, effectivement, de ce point de vue-là, ont échoué. Parce que elles n'ont pas accepté que ça pouvait mal tourner, ces commémorations, que ça pouvait foirer, que ça pouvait donner quelque chose d'un peu triste, etc. Il faut accepter ça, il faut l'intégrer dans la commémoration.
Pour jeter le trouble à cette commémoration, hier, nous avons terminé l'émission avec Jean-Christophe Bailly, avec Philippe Clay. Les universités de Philippe Clay, ce qui a fait hurler beaucoup d'auditeurs, je dois vous le dire. Et bien aujourd'hui, on terminera avec la Java des chaussettes à clous, Jacques Higelin, autre style.
Ta reine mutine, toujours à corte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne aloi. Dépouillée de tout équivoque, la noire d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Oyez le plaisant vacarme, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous, à clous. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec l'orable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou bien les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des âmes gendarmes, parure en même temps qu'armes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. À clous.
La Java des chaussettes à clous, écrite par Boris Vian et interprétée par Jacques Higelin. Dommage, il aurait été dommage de ne pas saisir cette occasion de lui rendre hommage et sa rime. Merci Patrice Maniglier.
Merci
d'être venu nous parler de mai 68 aujourd'hui. Et donc rendez-vous eh bien, au centre Pompidou
pour, absolument, tout le monde est bienvenu, il n'y a aucun prérequis
pour vous écouter parler. D'ailleurs, France Culture sera aussi au centre Pompidou ce week-end, figurez-vous, pour présenter le festival Imagine 68-2018, l'esprit de mai. Ben, ce sera tout le week-end donc, au centre Pompidou. Pour l'heure et aujourd'hui, vous êtes sur France Culture, les chemins de la philosophie, et il est l'heure de retrouver le journal de la philosophie de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes
vous
et à tous.
Vous restez dans l'esprit de mai 68 en fait.
Oui, avec le livre de Patrick Farrow, Le capitalisme addictif, paru aux éditions PUF. Alors ce livre ne porte pas uniquement sur mai 68, mais il en part et il pose la question qu'est devenu le projet d'émancipation formulé en 68, alors qu'était promise une libération à l'égard de toute forme d'autorité. Qu'en est-il aujourd'hui? De quoi sommes-nous dépendants, si ce n'est plus, en tout cas moins, aux fausses promesses politiques et à l'immobilisme des traditions? Eh bien, pour répondre à ces questions, Patrick Farrow, pour sa part de film énormément. J'en ai sélectionné trois qu'il cite. Voici le premier.
Les gouvernements ont la vue courte.
N'accusez pas les gouvernements. Dans le monde entier, à l'heure actuelle, personne, aucun gouvernement ne peut se vanter de gouverner. Ce sont les masses qui régissent les événements. Des forces obscures dont il est parfaitement impossible de connaître les lois.
C'est vrai que quelque chose nous pousse contre ce que nous sommes.
Il faut marcher, marcher.
On marche pour battre celui qui en souhaite toujours.
Qui est-ce donc qui s'amuse à tourner en dérision l'humanité?
Oui, qui nous manœuvre en douche?
Le diable, probablement.
Vous avez reconnu l'extrait, Adèle?
Non, le diable, probablement. Du coup, j'ai reconnu le titre, donc c'est Bresson.
Bresson, 77, bravo. Dans la droite ligne de 68, il suit un groupe de jeunes écologistes épouvantés par la bombe atomique. Et dans la droite ligne des revendications politiques, ce groupe veut, sur un versant intime, je cite, « ne pas être forcé à remplacer un vrai désir par des faux désirs calculés d'après des statistiques et des sondages ». Mais voilà, admettre ses pensées, ses amours, ses envies, être déculpabilisé vis-à-vis de son corps, de ses jouissances et de ses souffrances, est-ce être indépendant? N'est-ce pas être du coup dépendant de ses désirs? Par un retournement, une perversion même sur laquelle jouent les mécanismes du capitalisme, ce qui était une promesse d'émancipation se serait transformé en aliénation. C'est en tout cas la grande idée de Patrick Farrow. À la servitude combattue en 68, se serait substituée la dépendance, pire ou mieux, la dépendance à l'indépendance. Mais alors comment comprendre une telle addiction et collective en plus? À quoi ressemble une société addicte? Réponse avec un deuxième exemple de film.
The next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street.
We're going down a drain, okay? The stock is plummeting.
When it hits 18, buy it all.
Something big is going down. I want you to fill out the missing picture.
Mr. Gecko, that's not exactly what I do.
Where you can trade your honor.
I can lose my license. That's inside information.
for power.
If you're not inside, you are outside. I want you with me, buddy. I'm with you, Gordon.
À quoi sommes-nous accros? Sommes-nous tous drogués? Et jusqu'où? Jusqu'à quel manque? Wall Street, première version en 87, le film d'Oliver Stone est pour Patrick Farrow un bon exemple de notre addiction à l'argent et de la course pour l'obtenir. Mais à l'argent, on pourrait aussi ajouter le sport intensif, les nouvelles technologies, les troubles alimentaires, la surconsommation marchande. En fait, on pourrait presque tout ajouter. Nos comportements ont pris la forme de comportements addictifs, entraînant, je cite, des effets stimulants, euphorisants, qui procure plaisir, bien-être, soulagement et envie de recommencer, mais aussi sensation de manque, craving, désir extrême, usage compulsif, élévation de la tolérance, sevrage douloureux, conséquences négatives pour soi-même ou les autres. Alors comment s'émanciper de ce qui repose précisément sur l'émancipation, sur la libération de notre désir?
Son impériale Altesse, sa grâce, sa sérénissime excellence, sa royale majesté, la reine de cœur. Ah oui, et le roi. Hourra!
Qu'on leur coupe la tête!
Oui, et j'espérais...
Levez la tête, parlez distinctement et ne tortillez pas vos doigts! La pointe des pieds en dehors, faites la révérence... Ouvrez la bouche, ouvrez la grande, et répondez toujours « Oui, votre majesté !»
Là, j'ai reconnu, c'est Alice au Pays des Merveilles.
Bravo, entre Bresson et Alice au Pays
incroyable,
des Merveilles.
Incroyable, l'enciné, oui.
Comment s'émanciper de l'indépendance? Comment faire quand les conséquences négatives pour les autres sont en fait les mêmes pour tout le monde, quand elles sont du coup insensibles pour tous? Mais surtout, être addict à l'indépendance, au fond, est-ce que c'est si grave? Le troisième et dernier film que j'ai choisi et qui est cité, que vous avez trouvé, Adèle, c'est donc Alice au Pays des Merveilles. La Reine Rouge ou Reine de Cœur y est l'exemple parfait de la violence avec ses cris et ses ordres qui s'amplifient mais fait pourtant du surplace. Elle est en fait l'exemple parfait du processus de la dépendance qui augmente mais qui ne s'achève pas et ne se satisfait jamais. Les drogues, l'alcool, les écrans, le shopping, au fond, peu importe, seul compte l'usage, excessif mais stagnant, jamais satisfaisant. Comment donc user sagement de l'indépendance? Comment donc, non pas se sevrer, mais modifier l'ordre de ses désirs pour continuer ainsi à les libérer?
On aurait pu parler aussi du micro, la drogue qu'on connaît bien quand on a la radio.
Ah oui, c'est vrai, bah vous pourriez...
Et co-écrire un livre avec Patrick Farrow peut-être.
Oui, sur l'addiction au micro. C'est une
comment s'appelle son livre en tout cas?
Le capitalisme addictif, c'est paru au PUF et je recommande de toute façon chaudement les livres de Patrick Farrow qui sont toujours très bons.
Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Marie Aubert cette semaine, Isis Jourda, Maude Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Guilain Meige qui est à la prise de son aujourd'hui, Noam Morgenstern qui est à la lecture des textes cette semaine également. On se retrouve demain pour une émission des vendredis des chemins de la philosophie, actualité philosophique. Nous parlerons de la parution du journal inédit d'Alain, le philosophe Alain, de son vrai nom Émile Chartier. Ce sera Emmanuel Blondel qui est à l'origine de cette publication qui viendra vous en parler. Et vous verrez, c'est polémique parce qu'on trouve entre autres des propos antisémites dans ce journal. Je précise que cette émission a été enregistrée avant la pétition contre le nouvel antisémitisme qui paraît en ce moment. Référez-vous à cette émission, vous verrez demain, c'est absolument passionnant et les enjeux sont loin d'être dépliés dans leur intégralité, ça c'est vrai, de manière générale. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission ainsi que toutes celles sur mai 68 années philosophiques qui ont lieu cette semaine, c'est très simple, vous vous rendez sur France Culture, à la page des chemins, vous la réécoutez en ligne ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et c'est vrai également des réseaux Instagram, Facebook et Twitter, vous retrouverez cette émission en ligne pour l'écouter quand vous voulez. Sur France Culture à midi, vous retrouverez Olivia Gesbert pour la grande table. Mais il est 11h et 11h, c'est l'heure de Culture Monde, présentée cette semaine par Tiphaine de Rocchini.